18-20.
Le 18-20 au lendemain de la primaire de la Belle Alliance Populaire qui a vu la nette victoire de Benoît Hamon sur Manuel Valls avec le candidat socialiste. Le paysage de la présidentielle à gauche est désormais plus lisible. Hamon, Mélenchon, Jadot, Poutou, Artaud, si ces trois derniers ont leur parrainage, Macron, s'il fait bien partie de la gauche. Voilà les forces en présence, ce n'est pas faire insulte à qui que ce soit que de dire que la gauche, à ce stade, se présente divisée au premier tour. Sur le programme des uns et des autres, sur les perspectives politiques pour la gauche au premier tour de la présidentielle, vos questions au téléphone sonnent jusqu'à 20h.
Nicolas Demorand, le téléphone sonne.
01 45 24 7000 franceinter.fr, Twitter avec le mot-clé Telson. Je salue Isabelle de Dijon qui ouvre les hostilités au standard. Bonsoir.
Bonsoir à vous.
Bienvenue.
Bon, je voulais poser un constat assez rapide. À l'instant T, Benoît Hamon est le seul et l'unique avec un programme précis et inchangé, fondé sur un changement de paradigme et une base populaire. Alors, je pense que les difficultés sont à venir, d'abord pour rassembler la gauche et puis avoir 50% des Français et une voix.
Merci Isabelle pour ce premier constat, effectivement, qui décrit bien le paysage autour de Benoît Hamon. Alors, pour dialoguer avec vous ce soir, laissez-moi vous présenter les invités du téléphone sonne. Lénaïque Bredou, bonsoir.
Bonsoir.
Journaliste politique à Mediapart, Frédéric Mettezo, bonsoir.
Bonsoir à tous.
Chef du service politique de France Inter, et nous sommes en duplex depuis les studios de France Bleu Nord à Lille, avec Rémi Lefebvre, bonsoir. Vous êtes, petit problème de liaison, Rémi Lefebvre, professeur de sciences politiques à l'université Lille 2, chercheur au CNRS, spécialiste du PS, du Parti Socialiste, auteur avec Éric Treil des primaires ouvertes en France aux presses universitaires de Rennes. On va rétablir la liaison dans quelques instants. Frédéric Mettezo, un mot sur le paysage tel que le décrivait Isabelle à l'instant.
Changement de paradigme, comment concilier un changement de paradigme et une base populaire, c'est bien
voilà,
ça.
Voilà, c'est ça, changement voilà. De paradigme, 50% des voix plus une.
Voilà, j'ai 4 heures en 3 parties.
Voilà.
Non, mais effectivement, c'est toute la complexité pour Benoît Hamon qui porte un programme réellement complexe au sens premier du terme. Benoît Hamon ne fait pas forcément un catalogue de propositions sur pour le chômage, je propose ceci, pour tel dossier, je propose cela. C'est vrai que j'ai pu le voir justement en meeting à Lille vendredi soir. Benoît Hamon, il expose pour l'instant une vision de la société. Il va pouvoir vous citer en meeting Isaiah Berlin ou Gramsci ou Pierre Rabhi ou le pape François en citant à chaque fois les options philosophiques de ces différents intervenants. Pour l'instant, c'est pas un catalogue de mesures. Donc, si j'ai bien compris la remarque d'Isabelle,
c'est le plus difficile commence. C'était ça.
Le plus difficile commence parce qu'il a exposé une vision de la société. Maintenant, il faut la transformer en projet concret pour les électeurs.
Ça va être dur hein, pour la suite, Lénaïque Bredou.
Mais c'est évident que ce sera difficile parce qu'on voit bien que le quinquennat a quand même contribué à un éclatement encore plus important de la gauche à l'intérieur du Parti Socialiste, mais évidemment aussi à l'extérieur. Et que cet éclatement aujourd'hui, il semble difficile de le contrer. Alors c'est exactement ce qu'il va essayer de faire puisqu'il l'a dit déjà dès hier soir en faisant un appel direct, en les citant nommément à Yannick Jadot, qui est le candidat qui a été désigné par Europe Écologie Les Verts, et à Jean-Luc Mélenchon, évidemment, de la France Insoumise, en proposant de façon assez maligne un contrat gouvernemental, de réfléchir à un contrat de gouvernement, ce qui veut dire ne pose pas comme préalable la candidature à la présidentielle, mais peut séduire une partie des appareils communistes ou écologistes notamment sur la question des législatives.
Et quel est votre regard sur ce que Jean-Luc Mélenchon, citant les révolutionnaires entre guillemets tunisiens, a appelé le dégagisme,
la pulsion dégagiste.
Voilà, Duflot, Sarkozy, Juppé, Hollande, Valls, dehors.
On pourrait ajouter aussi Arnaud Montebourg qui avait déjà été candidat à une primaire, qui avait déjà fait 18% et qui avait déjà fini troisième. Oui, la pulsion dégagiste, elle existe d'ailleurs dans beaucoup de démocraties occidentales. On l'a vu en Italie pour Renzi, on l'a vu pour Cameron au Royaume-Uni, on l'a vu pour les démocrates américains avec l'élection de Trump.
Oui, c'est la règle maintenant. maintenant.
Oui, voilà. Alors, il y a une sorte, je ne sais pas si on pourrait pas appeler ça un printemps occidental, bien sûr, sans la violence et sans le sang des révolutions arabes. Pour revenir plus précisément à cette pulsion dégagiste, elle existe. Jean-Luc Mélenchon l'avait même théorisé dans un livre qui s'appelait « Qu'ils s'en aillent tous » en 2010. La question, c'est Mélenchon, est-ce qu'il est si nouveau que ça, finalement ?
Point d'interrogation, je n'y répondrai pas à cette question, Lénaïque Bredoux.
Deuxième campagne pour lui, sénateur élu depuis 31 ans.
Lénaïque Bredoux.
Là-dessus, les partisans de Jean-Luc Mélenchon répondent avec une feinte assez maligne, hein, d'ailleurs aussi, sur l'idée qu'il propose d'être élu pour déclencher une constituante et donc pour éventuellement s'effacer. Donc il dit que cette pulsion dégagiste, ce dégagisme...
Il
se l'applique à lui-même, exactement.
Un pape de transition.
La question, c'est évidemment, est-ce que les électeurs vont croire cette proposition ? Quelle crédibilité ils vont lui donner ? Mais de fait, on voit bien dans ce dégagisme, qui est un mot un peu laid, hein, mais bon, cette idée qu'on voit aussi de vote de colère quand on rencontre les électeurs et qu'on voit aussi dans les urnes, enfin le score du Front National quand même de toutes les dernières élections le montre, cette envie quand on entend il y en a marre des politiques, ni droite ni gauche, enfin c'est quand même quelque chose qui est quand même très fort dans une partie de la population, bien au-delà même des électeurs du Front National, et que ce besoin de renouvellement que n'ont cessé de montrer les chercheurs, les élus politiques qui eux-mêmes racontent que sur leur terrain on leur dit on a besoin de renouvellement, qui se sont pas beaucoup appliqués à eux-mêmes et que les électeurs leur appliquent d'office.
Dès qu'ils ont la possibilité. Frédéric, un mot, puis Rémi Lefebvre à Lille.
Oui, cette idée de renouvellement et de changement de posture, c'est effectivement celle de Benoît Hamon qui dit « je ne serai pas le sauveur suprême, je ne serai pas le président tout-puissant ». C'est vrai que c'est assez paradoxal quand on veut devenir président de la République française, qui est quand même, dans toutes les démocraties occidentales, le chef d'État qui a le plus de pouvoir entre ses mains et le moins de contre-pouvoir à se voir opposé. Donc effectivement, là, il y a un véritable changement. Et pour continuer sur ce que vous disiez, Lénaïque, sur cet appel de contrat de gouvernement, Hamon dit finalement, si on trouvait le programme qui va bien, peut-être que je pourrais me mettre de côté, peut-être que je pourrais me mettre en retrait. Ça, c'est la belle histoire racontée. Dans les faits, c'est plus compliqué parce qu'une fois qu'on est parti dans une campagne présidentielle, on est quand même parti dans une aventure qui est très personnelle. C'est là-dessus aussi que la posture césariste, bonapartiste de Jean-Luc Mélenchon s'accommode assez mal avec l'idée du pape républicain de transition.
Rémi Lefebvre, sur ce concept, entre guillemets, de dégagisme, entre guillemets aussi.
Mais écoutez, oui, il y a une tendance oligarchique dans les démocraties contemporaines, donc c'est pas un hasard si cette tendance qui travaille toutes les démocraties produise des effets assez similaires dans tous les systèmes politiques. Il y a une aspiration au changement, au renouvellement. En France, c'est très très marqué parce qu'il y a un vieillissement de la classe politique. Et d'ailleurs, effectivement, Benoît Hamon incarne une nouveauté, hein. Il a 49 ans, même si c'est un professionnel de la politique assez classique, il incarne un nouveau style. Il a quand même répété hier qu'il n'était porteur d'aucune vérité, et donc face à la symbolique de Mélenchon qui est très vertical, eh bien il incarne une espèce de fraîcheur et d'horizontalité un peu participative, à mon avis, qui peut séduire et qui peut éroder un peu la base électorale de Jean-Luc Mélenchon. Lui, effectivement, qui cultive le volontarisme bonapartiste, une certaine arrogance aussi, il est très très clivant, alors que Benoît Hamon arrive à avoir un discours très à gauche, très ancré à gauche, et en même temps à être beaucoup plus arrondi, être beaucoup plus pragmatique aussi, alors même qu'il renoue avec l'utopie. Donc il a une alchimie, Hamon, qui est assez bien adaptée à l'offre politique et à la configuration que porte aujourd'hui, enfin de à gauche, et notamment à l'offre que porte Jean-Luc Mélenchon.
Ils arpentent, Rémi Lefebvre, les mêmes terres idéologiques, Hamon et Mélenchon, pour vous?
Oui et non. Alors déjà, c'est vrai que pour Mélenchon, c'est une très mauvaise nouvelle, cette victoire de Benoît Hamon, parce qu'il n'est plus maître de son espace politique. Hein. Il attendait que Valls soit candidat. C'était très 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 facile de taper sur Valls. La question aujourd'hui, c'est de savoir qui va être porteur et comptable du bilan de François Hollande. Peut-être Emmanuel Macron, d'ailleurs, hein, finalement, puisque c'est lui peut-être qui va le porter plus que Benoît Hamon. Hein. Faut rappeler qu'il a été ministre en 2014, après le départ de Benoît Hamon. Et donc, effectivement, Mélenchon est bien embêté parce que, finalement, il pensait avoir son espace politique bien délimité. Et là, il va avoir Benoît Hamon qui va venir lui disputer le leadership de la gauche radicale, même si j'aime pas trop l'expression. Et donc, on va avoir, à mon avis, des interactions entre les deux candidats de gauche qui vont être assez passionnantes dans les semaines qui viennent.
Allez, on retourne au Standard d'Inter. Énormément de monde ce soir. Monsieur le maire Thomas de Dordogne, bienvenue et bonsoir.
Bonsoir. Merci de prendre mon appel. Donc, en effet, je suis le maire de Saint-Pompon, un petit village de Dordogne. Je suis candidat indépendant aussi à la législative et je suis de gauche, déçu du socialisme socialiste, on va dire, sans jamais avoir appartenu pour autant au parti. Mais la question que je me pose, c'est comment croire à ce virage de gauche quand les investis du PS, par exemple, sur ma circonscription, font le grand écart du rassemblement, le mot rassemblement en tant que ça, puisqu'ils sont valsistes au départ. Et est-ce que la démarche Hamon fera son chemin au sein du parti jusqu'à la présidentielle? Et en gros, je me pose la question suivante. Est-ce qu'il ne faudrait pas souhaiter la fuite des sociaux-libéraux du Parti socialiste vers M. Macron pour une refonte constructive de ce grand parti qu'est le Parti socialiste? Voilà.
Merci monsieur le maire pour cette question. Lénaïque Bredoux.
Effectivement, ce que l'auditeur disait, c'est exactement la question qui va se poser à Benoît Hamon, parce que il y a un problème de crédibilité des socialistes en général, du Parti socialiste, que le bilan du quinquennat a été un sentiment de trahison, en tout cas de déception très fort, qui vise l'ensemble des socialistes. Alors, on peut opposer à ça le fait que la primaire est pas si mal réussie. Évidemment, beaucoup plus faible en nombre de participants que les Républicains ou même que la primaire de 2011, mais moins catastrophique qu'attendu.
Imaginez, ouais. Ouais,
exactement.
Ou
avec 2 millions de votants au deuxième tour, c'est honorable, on va dire. Donc, il reste quand même le fait que le PS continue à structurer et à présenter une offre qui amène des électeurs à venir dépenser 1 euro pour désigner un candidat à la présidentielle. Voilà, ça c'est, mais ce sera la question de une fois qu'il est candidat, est-ce qu'on lui donnera crédit de ce qu'il dit, de la fiabilité de ce qu'il dit, ou est-ce qu'on dira, bah, c'est comme les autres, quand il sera élu, il fera autre chose.
Fred, oui, vous voulez dire un mot?
Non, et la deuxième chose, c'est qu'effectivement, il y a l'enjeu du Parti Socialiste, c'est-à-dire que comment, entre son aile gauche et son aile droite, Benoît Hamon va réussir à rassembler tout le monde pour limiter les fuites vers Emmanuel Macron. Et du coup, de ce point de vue-là, il y aura forcément des tensions. On le voit bien, par exemple, si on prend l'exemple, de la Grande-Bretagne avec Corbyn, où il y a une bataille permanente entre l'aile droite et Corbyn, et malgré son assise militante, qui fait que l'aile droite, pour le dire rapidement, essaye systématiquement de reprendre le contrôle du parti.
Frédéric Mettezo.
Ce que propose Thomas, notre auditeur du Périgord, c'est finalement la fin du cycle d'Épinay. C'est-à-dire que le Parti Socialiste, sous la houlette de François Mitterrand, il arrive à faire cohabiter dans la même maison Rocard, Delors, Defferre, Mauroy, qu'on jugerait aujourd'hui sociaux-démocrates, voire centre-gauche, même s'ils avaient, par exemple, pour Pierre Mauroy, un air de gauche très ouvriériste. Et de l'autre côté, il y avait les Chevènements, les Poperaine, qui venaient soit du CRS, soit du Parti communiste, et ça fonctionnait. Aujourd'hui, ce que nous dit Thomas, c'est une sorte de nouveau congrès de Tours, c'est-à-dire, mais à l'envers, c'est-à-dire l'aile droite s'en va, mais du coup, le Parti socialiste se retrouve arithmétiquement minoritaire au sein du pôle de gauche. Donc, la question de se séparer, de purger une partie d'une aile du PS,
oui,
que ce soit
laisser
l'aile
partir,
droite
disait
ou
Thomas.
L'aile gauche d'ailleurs, laissons-les aller chez Macron, laissons-les aller chez Mélenchon, c'est qu'est-ce qui reste au milieu?
Rémi Lefebvre sur la question de notre auditeur, avec au sommet donc un Benoît Hamon à la gauche de la gauche ou à la gauche du PS, et comme il le disait, sur le terrain, des gens qui sont valsistes et qui ne sont pas sur la même ligne, laissons-les partir.
Bah effectivement, la victoire de Benoît Hamon ne solde pas le passif dans une partie de la gauche du bilan de François Hollande qui est perçu comme trop à droite. Donc attention, c'est vrai que l'identité du Parti Socialiste aujourd'hui, c'est Benoît Hamon, mais le Parti Socialiste est très largement démonétisé aujourd'hui dans l'opinion de gauche. Et donc il a un travail de restauration de son crédit symbolique à faire, qui n'est pas facile. Il y a des déçus qui le sont de manière irrévocable. Il faut rappeler que la motion qu'a portée Benoît Hamon au dernier congrès de Poitiers, c'était 28% des adhérents du Parti Socialiste, et donc le centre de gravité des élus du Parti Socialiste, des députés, des maires, évidemment, est beaucoup plus à droite que celui incarné par Benoît Hamon. Après, la question, c'est de savoir, c'est l'élection présidentielle qui va avoir lieu, et donc l'élection législative va dépendre de l'élection présidentielle. On le sait très bien dans notre système, et c'est un problème, c'est le président de la République qui définit la ligne politique. Et donc le fait que ce soit le leadership aujourd'hui au Parti Socialiste, ce soit celui de Benoît Hamon, ça donne quand même une orientation à l'opinion. Alors le parti va va-t-il suivre? On va le voir. Moi, je pense aussi qu'il y a beaucoup d'élus qui aujourd'hui sont attentistes. C'est pas sûr qu'ils aillent autant que ça du côté de Macron, parce qu'il y aura pas beaucoup de place à prendre, hein, et que Macron va se méfier de ces transfuges du PS. Et donc, effectivement, il y a ce nombre de d'élus socialistes qui vont attendre et qui sont désorientés idéologiquement.
Un mot, Frédéric, puis Jacques au standard.
Oui, très rapidement sur le départ d'une aile, que ce soit l'aile droite ou l'aile gauche. Il faut quand même se souvenir que le Parti socialiste a vu partir un certain nombre de tenants d'une ligne de gauche, alors gauche très républicaine façon Chevènement ou gauche plus radicale façon Mélenchon. Ça n'a pas vraiment renforcé le PS, donc il faut y réfléchir à deux fois avant de laisser partir des cadres et des troupes.
Jacques, bonsoir et bienvenue dans le téléphone sonne.
Bonsoir à vous.
Nous vous écoutons, Jacques.
Merci pour la qualité de vos émissions.
Merci à vous.
Alors, à 78 ans, je disais, j'ai vu Mitterrand en 81, et puis je l'ai revu en 83. Et puis là, vous me parlez de socialistes, mais je me posais la question, sont-ils vraiment socialistes? Parce que j'ai pas l'impression que Hollande soit un socialiste, que Macron soit un socialiste, alors là, pas du tout. Que Hamon soit un socialiste non plus, et que Valls non plus d'ailleurs. Pour voter aux primaires, j'ai voté pour que M. Valls ne passe pas, je vous le cache pas. Mmh. Hein? Et je sais que même en tant qu'homme de gauche, homme laïque de gauche, je n'appartiens à aucun parti, je ne voterai pas pour M. Hamon. Je ne sens pas ce programme-là.
Vous sentez plutôt lequel, Jean-Luc Mélenchon?
Tout à fait. Je pense que l'homme le plus à gauche et le plus intègre actuellement, qui parle, etc., c'est M. Mélenchon. Mmh. Mais le Parti socialiste est trop versé dans une sorte de cuisine politique qui, à la fin, commence à être très désagréable.
Et vous verriez Jean-Luc Mélenchon et Benoît Hamon passer un accord, par exemple, dans cette présidentielle?
Non, je ne crois pas. Je ne le pense pas parce que je pense que Jean-Luc Mélenchon est un homme de rigueur. Peut-être règle-t-il des comptes, comme certains le sous-entendent, j'en sais rien. C'est pas le problème. Mais, ou alors c'est M. Hamon qui à nouveau va faire des concessions. Mmh. Et quand on veut être président de la République, c'est pas pour faire des concessions. Je ne pense pas.
Merci Jacques pour cette intervention. Lénaïque Bredoux.
Mais effectivement, dans ce que dit Jacques, il y a quelque chose d'intéressant quand il dit il n'est pas socialiste Benoît Hamon. Alors je ne sais pas si c'est exactement à ça qu'il veut faire référence, mais de fait, Benoît Hamon est une des figures. Enfin, son héritage politique, c'est celui de Michel Rocard. Donc c'est la deuxième gauche qu'on appelle la deuxième gauche. Donc c'est peut-être à ça qu'il veut dire. Et effectivement, c'est un univers politique dans lequel une partie de ceux qui ont beaucoup soutenu François Mitterrand ou le Parti socialiste sous François Mitterrand se retrouvent pas forcément dans les thématiques abordées. C'est le cas par exemple du débat autour du revenu universel, hein, mais pas uniquement, la lutte contre les discriminations, de la place de l'écologie, etc. Et dans ces différences avec Jean-Luc Mélenchon, il y a aussi évidemment cette question-là, parce qu'on voit bien dans les discours de Benoît Hamon que la question de la souveraineté, du protectionnisme très première gauche sont très absents, alors que c'est ceux que reprend Jean-Luc Mélenchon et évidemment aussi dans sa déclinaison sur la question européenne, où Benoît Hamon, pendant la campagne de primaire, s'est désolidarisé d'Arnaud Montebourg en disant qu'il n'irait pas casser de la vaisselle à Bruxelles, et où il a parlé simplement d'Europe sociale, comme à peu près tous les socialistes parlent d'Europe sociale depuis 20 ans. Donc on voit bien sur ces deux points-là, sur la question de la souveraineté, de l'Europe, etc., des thématiques sur lesquelles ils sont vraiment en désaccord.
Frédéric ?
Oui, Jean-Luc Mélenchon revendique le terme de socialiste et de socialisme qu'il oppose aux solférinois pour parler de ses anciens camarades. Alors moi, je n'irai pas définir le terme de socialiste, c'est peut-être plus l'affaire de Rémi Lefebvre, mais effectivement, Jean-Luc Mélenchon assume parfaitement ce mot de socialiste qui est effectivement beaucoup moins brandi par les autres candidats à la présidentielle qui étaient dans la primaire de la BAP.
La belle alliance populaire. Rémi Lefebvre, on le voit très nettement à la question de notre auditeur, il y a une offre de gauche roborative, tangible, en dehors du PS.
Oui, évidemment, je dirais à Jacques qu'il n'y a pas d'essence du socialisme. Il y en a eu pléthore de socialisme au cours de l'histoire et qu'évidemment, le socialisme d'il y a un siècle n'a plus grand-chose à voir avec le socialisme d'aujourd'hui. Les valeurs de justice sociale, d'égalité sont toujours avancées, mais aujourd'hui, les instruments de ces politiques de justice sociale sont différentes. Par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure sur la deuxième gauche et la première gauche, je pense que ce qui est intéressant dans Benoît Hamon, c'est qu'il incarne une deuxième gauche rocardienne, mais première manière, celle des années 70, c'est-à-dire la deuxième gauche post-manifeste antimatérialiste, antiproductiviste, centré sur la réduction du temps de travail, celle d'André Gorz, celle qui est autogestionnaire d'un certain point de vue. Alors je pense quand même qu'il y a un effet de la primaire, c'est-à-dire que Benoît Hamon, il devait séduire l'électorat de gauche. Il devait séduire l'électorat de gauche et il a été très très fin parce qu'il a fait venir les électeurs de gauche qui étaient un peu dégoûtés par le Parti Socialiste sur des belles perspectives, sur un imaginaire, hein, il parle d'imaginaire, sur un futur désirable. Et donc il fallait faire voter, je vais aller un peu vite, les bobos urbains de la primaire, qui votent à la primaire. Maintenant, pour Benoît Hamon, la question, ça va être de corriger le tir et de s'adresser à un cœur de l'électorat de gauche, qui est les milieux populaires, qui n'ont pas voté à la primaire, mais qui, eux, sont au cœur de l'électorat de gauche. Et d'ailleurs, je note que Mélenchon n'arrive pas à mobiliser. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'électorat de Jean-Luc Mélenchon, c'est aussi un électorat diplômé urbain. Et donc, je pense, on va voir ce qui va se passer, mais je pense que Benoît Hamon peut corriger le tir. En tout cas, il va falloir qu'il s'adresse au milieu populaire et qu'il ait un discours peut-être plus classique de gauche, peut-être plus première gauche, plus critique à l'égard de l'Europe, et puis aussi qu'il donne du grain à moudre sur le pouvoir d'achat, parce que le revenu universel, ça parle pas forcément au milieu populaire, qui veulent voir la feuille de paix, hein. On se souvient d'ailleurs du discours de Montebourg, hein. Il disait, Montebourg, moi je veux m'adresser à la question la feuille de paie, et donc aujourd'hui pour Hamon, il va falloir mettre un peu peut-être de gauche première gauche classique dans son mélange deuxième gauche rocardienne première manière.
Rémi Lefebvre décrit bien la loi des reins, enfin en tout cas telle qu'elle semble se dessiner primaire après primaire. Ces dispositifs électoraux et démocratiques concernent, enfin mobilisent le cœur des électorats de chacun des camps. Ça a été le cas à droite comme à gauche.
Effectivement, c'est effectivement le plus gros problème des primaires, c'est-à-dire à un moment, il y avait deux problèmes principaux qui étaient pointés. Rémi Lefebvre l'a beaucoup documenté, mais il y avait évidemment le fait de valider les candidats des sondages ou des médias, donc la prime à celui qui est en tête dans les sondages. Bon, là, on a vu que c'est pas du tout ce qui s'est produit et à la primaire des Républicains et à la primaire du PS. Mais l'autre biais, c'est évidemment la distorsion sociologique du corps électoral, où il y a une surreprésentation des catégories supérieures, urbaines, diplômées, qui évidemment crée un problème politique majeur au candidat qui est désigné, parce que ce n'est pas le corps électoral du premier tour de la présidentielle.
Oui, c'est vrai à droite comme à gauche, hein, on le voit, la difficulté après la primaire à ouvrir son électorat est réelle. Frédéric ?
Oui, c'est ce qui était dit à François Fillon, le maire de Tourcoing, Gérald Darmanin, tirer la sonnette d'alarme quelques jours après l'élection en disant maintenant il faut aller parler aux classes populaires, et à Tourcoing il sait réellement de quoi il parle. Sur ces inconvénients de la primaire, il faut quand même opposer un avantage, c'est que c'est la fin des appareils, c'est la fin des accommodements, des petites combines, etc. Manuel Valls avait derrière lui l'appareil du Parti Socialiste, il avait les parlementaires, il avait quasiment tout le gouvernement, donc si ça avait été une désignation à l'ancienne, c'est Manuel Valls qui aurait été désigné.
J'aimerais quand même demander à Rémi Lefebvre son analyse de cette nouvelle donne.
Oui, sur les sondages, ce qui est très frappant, c'est qu'en 2011, lors de la première primaire socialiste, les sondages ont joué un rôle majeur pour doper Hollande, parce qu'il fallait le candidat le mieux placé dans les sondages pour battre Sarkozy. Et en fait, aux deux dernières primaires, ce qui est très frappant, c'est que les sondages n'ont pas du tout joué de rôle. Dans la primaire de droite, tous les candidats de droite étaient donnés gagnants, donc finalement, le peuple de droite pouvait choisir le meilleur candidat, mais il y avait une anticipation de victoire, c'était imperdable pour la droite. Et puis, dans la primaire qu'on vient de vivre, là c'est exactement l'inverse. Personne ne regardait les sondages parce que tout le monde pensait que la primaire allait être perdue. Et donc finalement c'est aussi ça qui a permis à Benoît Hamon d'avoir cette ampleur dans son discours, dans l'envergure idéologique qu'il a donnée à la primaire, c'est que c'était une primaire un peu de combat culturel, hein, pour reprendre ces termes. On joue finalement le futur désirable. Alors effectivement les partis politiques sont très affaiblis par les primaires, c'est évident. Moi c'est ce qui ressort de ma réflexion, notamment les militants, hein, qui perdent leur droit à voter, et puis finalement des logiques, c'est les débats télévisés qui font la primaire bien plus que les cénacles internes. Mmh. Alors après, le risque, c'est que malgré tout, les primaires ont démontré ces derniers mois les effets pervers qu'ils pouvaient avoir. Et finalement, Macron, depuis des semaines, il profite des logiques des deux primaires, à droite et à gauche, qui ont produit des logiques centrifuges, hein, qui ont produit des effets de radicalisation. Et finalement, lui est au milieu et il ratisse très très large.
Tous les déçus de tous les camps.
Voilà, les déçus de droite qui trouvent que Fillon est trop trop radicale. Et puis les déçus, peut-être, on va le voir, du PS, qui trouve que Benoît Hamon n'incarne pas la ligne socialiste modérée. Voilà. Donc c'est assez intéressant, parce que les effets des primaires, il n'y a pas d'effet mécanique, il y a des effets qui dépendent aussi des contextes. Il y a des primaires de défaite, de victoire, il y a tous des types de primaires vraiment très différentes.
Hervé, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Bienvenue.
Oui, bonsoir. Merci de prendre mon appel. Voilà, moi je voulais réagir à l'entame du journal de Sébastien Paour tout à l'heure, qui évoquait M. Cazeneuve, qui aurait, entre guillemets, recadré M. Hamon en lui disant qu'il devait absolument assumer le bilan du gouvernement précédent.
S'il voulait gagner.
Or, je pense qu'il se trompe de débat, tous ces gens... entre guillemets, bien intégré dans le parti, c'est-à-dire que si M. Hamon est arrivé en tête de la primaire, c'est bien parce qu'il se distingue de ce bilan, qu'il a tenté de l'affronter avec le mode parlementaire qui était le sien au départ, mais c'est parce que justement, il cherche à ressortir de ce bilan un petit peu, c'est un euphémisme, décevant, que justement, il émane de cette gauche. Alors qu'elle soit socialiste, pas socialiste, d'appareil, pas d'appareil, il y a quelque chose qui est fondamental, c'est que il porte quelque chose qui n'a pas été assumé par M. Hollande, et il connote ça avec une dimension européenne que M. Mélenchon, lui, n'assume pas. Et quand on parle de M. Macron, moi je me demande jusqu'à quel point cette bulle Macron n'est pas aussi alimentée par le mode de communication, et uniquement ce mode de communication-là. Parce que je crois que la dynamique qui est à l'œuvre depuis 10 jours maintenant, et que, y compris sur France Inter, parfois on a du mal un peu à percevoir, je pense qu'elle s'inscrit sur une vraie vague qui, j'espère en tout cas, va enfler et un petit peu augmenter pour vraiment faire prendre conscience à toutes ces personnalités qui ne veulent pas voir combien elles ont déçu, vont quand même percuter que si Hamon s'inscrit dans quelque chose de cette dynamique-là,
il faut l'écouter.
Pas pour rien.
Merci voilà. Hervé pour cette question. Alors il y avait beaucoup de choses, hein, le rapport au bilan, la rupture par rapport au bilan, se débarrasser du bilan, et puis il y avait des choses sur la bulle Macron sur laquelle on va revenir aussi. Frédéric Mettezo.
Oui, le rapport au bilan qui était la première partie de l'intervention d'Hervé. Effectivement, Bernard Cazeneuve, il est dans son rôle. Il a été ministre des Affaires européennes, ministre du Budget, ministre de l'Intérieur. Il est maintenant Premier ministre. Il est rentré au gouvernement en 2012. Il en sortira en 2017. C'est logique à sa place qu'il dise qu'il faut porter le bilan. Après avoir entendu cette phrase, je vais vous raconter comment on travaille. J'ai appelé un parlementaire qui travaille très étroitement avec Benoît Hamon, qui dit non, on va pas du tout porter le bilan. Je lui ai demandé si finalement c'était pas le moment de faire le droit d'inventaire comme Lionel Jospin l'avait fait en 1995. Il dit non, une campagne n'est pas faite, surtout quand elle dure 80 jours. On est, je crois, à 80 jours du premier tour. Une campagne, elle n'est pas faite pour faire un droit d'inventaire de ce qui s'est passé, surtout quand on a depuis toujours dit qu'on était contre ce qui était fait. La campagne, elle est là pour porter un projet. Donc, si ça peut rassurer Hervé, Benoît Hamon semble pas disposé à porter très haut le bilan de François Hollande.
La bulle Macron, on verra ça dans quelques instants. Lénaïque Bredoux.
Mais sur le bilan, effectivement, la primaire, elle était aussi là pour ça, pour solder le bilan. C'était en tout cas ce que les candidats disaient, ceux qui étaient les plus critiques disaient, et même les plus légitimistes. Moi, je me souviens de proches de François Hollande, quand il était encore question qu'il soit candidat, disant l'avantage de la primaire, c'est qu'on va pouvoir solder le bilan et ensuite on partira sur nouvelle dynamique politique. Bon, c'est évidemment pas ce qui s'est produit, mais de fait, le débat du bilan au sein du Parti Socialiste, il a en quelque sorte été un peu réglé par les 2 millions d'électeurs qui se sont déplacés et qui ont choisi le frondeur, entre guillemets, Benoît Hamon versus l'ancien Premier ministre qui était porteur justement de ce bilan.
Rémi Lefebvre, sur le bilan, la rupture par rapport au bilan.
Le bilan, je trouve qu'il a été très très peu présent dans cette campagne et dans les débats finalement en Abou. C'était vraiment une campagne des primaires programmatiques, hein, sur des projets. Alors peut-être qu'évidemment Valls avait le bilan sur le front, et donc évidemment finalement les candidats notamment Hamon et Montebourg, on n'a pas vraiment rajouté parce que évidemment Valls incarne le bilan, et Hamon, je pense que sa stratégie, c'était de ne pas faire une campagne négative. Il a voulu faire une campagne positive sur un certain nombre de perspectives perspective. Voilà. Et donc, alors, est-ce que le bilan est soldé pour autant chez les électeurs? Ça, je suis pas sûr, parce que je pense que le bilan, on va en entendre beaucoup parler dans les semaines qui viennent, parce que ça va être une des lignes stratégiques quand même de Mélenchon, qui va sans arrêt vouloir ramener Hamon à son bilan. Il a quand même été 2 ans au gouvernement. C'est quand même lui avec Arnaud Montebourg qui a contribué aussi à la désignation de Manuel Valls. Ça, on va beaucoup l'entendre. Voilà. Donc le bilan. En même temps, les études de sociologie électorale démontrent quand même que les électeurs ne votent pas vraiment sur un bilan. Ils ne votent pas vraiment de manière rétrospective, mais plutôt de manière prospective. Alors c'est vrai aussi que l'offre politique, elle est crédibilisée par le bilan ou le passif qu'on porte ou pas.
Il est 19h50, largement temps de parler d'Emmanuel Macron. Bonsoir Thérèse.
Oui, bonsoir. Alors voilà, j'écoutais pendant toutes ces semaines, c'est moi tout et de partout. Et j'ai voté Hamon parce que il a lancé un mouvement de politique sociale très très intéressant, adapté à notre nouveau monde. Mais ce mouvement n'est pas prêt, il n'est pas mûr pour gouverner. Il faudrait que les nouveaux socialistes suivent le mouvement et le gonflent et le... Voilà ce que je voulais dire. Mais en face, j'ai Fillon, Le Pen, Sarko, qui sont la même famille que Trump, Poutine, et surtout l'extrême droite en Pologne, qui est une dictature d'autant plus dangereuse que sournoise.
Donc...
Pour les prochaines élections, bien sûr, je téléphonerai Macron, parce que c'est une évidence, pour éviter justement Fillon, Le Pen et Sarko.
Merci Thérèse. Donc vous voterez Macron en dépit de votre soutien effectif à la primaire de la BAP en faveur de Benoît Hamon. Lénaïque Bredoux, le point Macron est arrivé dans ce téléphone sonne. C'est le moment où tout débat sur la primaire du Parti Socialiste finit par arriver sur Emmanuel Macron.
Bah c'est là où on retrouve le débat sur les sondages. Parce que dans tout l'argumentaire de ceux qui sont favorables à Emmanuel Macron, vis-à-vis des électeurs de gauche, c'est de dire il faut voter pour le mieux placé. C'est là où on voit la tentation des électeurs. Moi, j'en ai rencontré aussi quand je suis allée dans les bureaux de vote de la primaire au premier tour, des gens disant exactement la même chose. Je viens voter pour Benoît Hamon, mais à la présidentielle, je voterai pour Emmanuel Macron parce que j'ai peur de François Fillon et de Marine Le Pen. Alors, on peut pas du tout savoir aujourd'hui combien de temps cette menace Fillon-Le Pen va durer. On voit ce qui se passe avec François Fillon aujourd'hui, donc encore moins prévoir, puisque voilà, la dynamique de sa campagne est quand même entachée par les affaires. Mais c'est évidemment là-dessus, sur ce réflexe, sur cette peur du 2002, du 21 avril 2002, et de se retrouver avec un second tour effrayant pour une partie des électeurs de gauche, que peut jouer en partie Emmanuel Macron. Après, il faut se méfier, voilà, de combien de temps il va pouvoir tenir sur son programme, sur son... truc un peu qui ratisse un peu large.
Je me dirige vers Lille, les studios de France Bleu Nord, pour demander à monsieur le professeur de sciences politiques à l'université de Lille 2 si Emmanuel Macron est une bubule, d'après lui, médiatico-sondagière. Rémi Lefebvre.
Bah écoutez, oui et non, je vais peut-être avoir une réponse de Normand, je suis désolé. Oui, parce qu'effectivement, il y a un effet d'attraction des médias qui ont toujours besoin d'un troisième homme aux élections présidentielles. On l'a bien vu en 2002, c'était Chevènement, en 2007, c'était Bayrou. Donc il y a cette idée de valoriser comme ça un candidat, de le consacrer. On a vu les unes, le nombre de
et
unes
si
absolument hallucinantes dont Macron bénéficie. Donc il trouble le clivage gauche-droite, donc forcément il intéresse les journalistes. En même temps, je crois que ce n'est pas uniquement une bulle. D'abord, il est en train de constituer une organisation. C'est aussi ça, c'est intéressant. Hein. C'est-à-dire que concrètement, il tisse sa toile au niveau local. Il y a des militants, il y a des élus. Finalement, même s'il s'en défend, il construit un parti politique, hein, même s'il n'en a pas le nom. Et puis surtout, il est quand même adapté à la situation politique aujourd'hui, parce qu'il y a un espace politique qui s'ouvre. Alors c'est vrai que jusque maintenant, subvertir le clivage gauche-droite, repousser la gauche et la droite, ça marchait pas. Il y avait une espèce de loi des reins du clivage gauche-droite. Mais là, peut-être que quelque chose va se passer. Je ne me prononcerai pas, mais il est vrai qu'aujourd'hui, Macron, même s'il cultive l'ambiguïté, même s'il n'a pas encore abattu ses cartes, même si le fait de ne pas avoir de programme, ça a permis une stratégie attrape-tout, ben il est là et malgré tout, il a un espace politique. Voilà. Donc, en tant qu'observateur, moi, je vais scruter les semaines qui viennent.
Frédéric Mettezo.
Oui, un élément pour dire que Macron n'est pas qu'une bulle médiatique et sondagière, ce qui ne veut pas dire qu'il serait élu. parce qu'on ne mesure pas la future élection avec la fréquentation des meetings, mais tout de même, je me souviens un lundi soir du mois d'octobre au Mans, 2500 personnes qui viennent voir Emmanuel Macron en meeting. Il y a 2500 personnes qui font un effort, qui vont s'intéresser. C'était très intéressant de parler à ces gens. Souvent, c'était leur premier meeting politique. Souvent, c'est des gens qui me disaient, ils étaient souvent vêtus de t-shirts blancs, j'ai jamais milité avant nulle part. Donc, il y a forcément un intérêt des électeurs. C'est pas parce qu'on fait 2000, 3000, 10 000, 15 000 personnes qu'on va concrétiser tout ça dans les urnes. Mais il y a quand même une appétence des Français pour Emmanuel Macron, pour écouter ce qu'il a à dire. En ça, c'est pas seulement une bulle pensée ici, à Paris. C'est pas une bulle seulement des réseaux sociaux ou des émissions télé.
Éric, bonsoir.
Oui, bonsoir à tous.
Bienvenue.
Merci. J'habite en région parisienne. J'ai participé à la primaire de gauche. J'ai moi-même voté Manuel Valls pour des raisons de programme économique en particulier. Donc, le clivage le plus important de Benoît Hamon et Manuel Valls. Et la question que je me pose, c'est est-ce que stratégiquement, Benoît Hamon fait pas une erreur en courtisant dès le premier jour Monsieur Mélenchon et Monsieur Yannick Jadot, et faisant plutôt passer par perte et profit les électeurs de Manuel Valls? Je pense que stratégiquement, il aurait dû d'abord rassembler son camp avant d'essayer de courtiser des gens pour lesquels on n'a pas beaucoup d'intérêt quand on vote Manuel Valls. Donc l'interrogation, alors vous parliez de Macron, donc ça c'est une vraie interrogation que j'ai aujourd'hui, c'est est-ce que il vaudrait mieux pas voter Emmanuel Macron dès le premier tour pour voir la gauche au second, parce que je pense que Benoît Hamon n'a quasi aucune chance de se retrouver au deuxième tour avec sa stratégie.
Merci,
voilà,
Eric.
L'interrogation que j'ai.
Merci de la partager avec nous. Léna Hig, un mot?
Non, mais effectivement, on voit bien que c'est la difficulté que va avoir Benoît Hamon. Quand on disait sur rassembler son camp, rassembler le Parti Socialiste, c'est exactement ce que vient de dire cet auditeur. Alors après, il y a un truc intéressant. Je sais pas d'où ça vient, mais hier soir, avant de faire son appel à Yannick Jadot et à Jean-Luc Mélenchon, il a commencé par parler des socialistes et qu'il fallait d'abord rassembler les socialistes, sa famille politique. Mais c'est étonnant parce que c'est comme s'il ne l'avait pas dit ce qui a été suivi après les commentaires et même ce que vient de dire l'auditeur. C'est comme si on ne l'avait pas vraiment entendu ou comme si on ne le croyait pas vraiment.
Frédéric Mettezo.
Oui, mais pour compléter ce que vient de dire notre consoeur, effectivement, quand un candidat socialiste dit « je dois rassembler les socialistes », c'est presque un train qui arrive à l'heure pour les journalistes. Donc on va plutôt retenir le train qui prend la voie d'à côté et l'appel à Jadot et à Mélenchon. J'ajoute juste que l'appel à Jadot, il est logique vu actuellement la faiblesse structurelle des Verts d'un côté et de l'autre le programme extrêmement écologisé d'Hamon. Il y a une forme de cohérence à cela.
Rémi Lefebvre, la conclusion en une minute.
Oui, Benoît Hamon est pris dans un dilemme stratégique. Ce qu'il prend d'un côté, il va le perdre de l'autre. Je pense qu'aujourd'hui, c'est normal qu'il s'adresse à Jadot et Mélenchon parce que le problème premier aujourd'hui, c'est la question de l'inflation des candidatures à gauche. Et donc, il doit d'abord résoudre cette question-là. Et surtout, il doit résoudre cette question-là parce qu'il va y avoir une surenchère au vote utile dans les semaines qui viennent. C'est-à-dire qu'il va y avoir les candidats qui vont faire perdre la gauche et Benoît Hamon ne veut pas être celui-là. Et donc, il va y avoir une bataille malgré tout entre Mélenchon et Hamon pour le mistigris de la défaite. C'est-à-dire, qui est le candidat qui va faire que la gauche n'est pas au deuxième tour? Ça va être l'enjeu des semaines qui viennent. C'est donc normal que Hamon aille plutôt du côté de la gauche plutôt que de fédérer les électeurs de Valls. Je crois qu'il ne peut pas faire autrement aujourd'hui.
Merci à tous les trois. Léna Hig Bredou de Mediapart, Frédéric Mettezo, chef du service politique de France Inter, Rémi Lefebvre, professeur de sciences politiques à l'université Lille 2, chercheur au CNRS. Je vous rappelle qu'Emmanuel Macron, dont nous parlions ces dernières minutes, sera l'invité du 7-9 spécial présidentiel ce mercredi sur France Inter. Vous pourrez l'interroger, évidemment, amis auditeurs. Le journal à suivre.